Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis. Mercredi soir sur Sud Radio, de 19h à 20h, la parole est donnée aux entrepreneurs. À 19h30 sur Sud Radio et sur Bismart, place à Stéphane Soumier. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Mais juste avant cela, dans quelques instants, nous retrouverons effectivement, comme tous les mercredis soirs, Denis Jacquet pour les voix des entrepreneurs. On va parler alimentation demain. Tiens, justement, ce soir plutôt, on va parler d'alimentation. Comment nourrir le monde tout en créant de la valeur? La parole est aux entrepreneurs innovants sur Sud Radio. Et en plus, ceux qui nous donnent faim, tant qu'à faire, je pense que c'est la meilleure solution. On en parle dans quelques instants, à tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs.
Pourquoi avoir commencé avec Bruce Springsteen, Down the River? Et c'est vraiment magnifique, c'est votre choix, Denis Jacquet, alors que vous voulez nous parler de l'alimentation ce soir. Mais
River, c'est pur, c'est fluide.
La rivière.
C'est la rivière, ouais. C'est la pureté. Cette chanson avec sa mélodie derrière, ça évoque la pureté. Donc je me suis dit, comment on va parler d'alimentation propre? C'est un bon thème.
Eh bien, parlons d'alimentation propre avec vous, Denis Jacquet, jusqu'à 19h30. L'alimentation qui nourrit le monde, ça c'est sa première fonction, mais qui peut aussi le changer justement en respectant la planète. On va vous parler notamment de fraises ou de salades qui sont produites dans la ville, dans des containers. Ouais. Oui, c'est dans quelques instants sur Sud Radio. On accueille tout de suite notre grand témoin. Bonsoir à vous, David Garbeau.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes un ancien de Fleury Michon, de Danone, des grands groupes. Vous êtes aussi fondateur de transformation positive. Vous essayez d'aider les grands groupes dont vous auriez pu faire partie dans le passé, justement, à aller vers une consommation durable. Concrètement, ça se manifeste comment?
Absolument. Moi, j'ai passé 20 ans dans des grands groupes alimentaires. J'ai eu la chance d'être dans des, notamment Fleury Michon et Le Sueur, des entreprises autonomes, assez indépendantes. Et j'ai eu la chance de mettre en place des transformations de l'intérieur pour faire évoluer la proposition. Et en allant sur les sujets d'engagement, de RSE, dont on parlait tout à l'heure.
Responsabilité sociale des entreprises. Vous étiez dans l'agroalimentaire, ce sont des grands groupes de l'agroalimentaire, et vous les rendez, vous les aidez à devenir responsables, et c'est possible.
Et absolument, c'est vraiment le défi qui est devant nous. Aujourd'hui, si on se projette à 20 ans et qu'on essaye de nourrir 9 milliards d'habitants de la même façon qu'on nourrit les Français aujourd'hui, il n'y a pas assez de ressources sur la planète. Donc on doit complètement réinventer le système pour faire en sorte qu'on puisse nourrir tous ces gens sans s'entretuer, parce que quand les gens ont faim, ça se passe pas bien. Donc il y a une obligation, et c'est une capacité d'innovation absolue pour changer de modèle. C'est compliqué, parce que c'est plus facile de reproduire ce qu'on a fait pendant longtemps que de changer radicalement. Mais moi, j'ai pas de martingale, mais la façon dont j'ai opéré à la fois chez Le Sueur et chez Fleury Michon, c'est essayer quelque chose de très radical et innovant sur une petite partie du business, faire un succès incontestable de ce changement. Et ça donne envie.
Pour faire tache d'huile, sans mauvais jeu de mots, avec Le Sueur.
Je n'aurais pas mieux dit. Mais effectivement, quelques semaines après mon arrivée chez Fleury Michon, il y a eu la crise du cheval dans les lasagnes. Donc on avait énormément d'appels aux services consommateurs, des gens qui étaient inquiets. Et après qu'on les ait rassurés sur les lasagnes de Fleury Michon, ils nous posaient une question sur le surimi, parce que c'était un des produits de Fleury Michon. Et très inquiets aussi sur cette composition de produits. Et on avait prévu de faire une campagne de publicité pour leur dire que...
On est clean, vous inquiétez pas, voilà.
Et plutôt que de faire une campagne classique, on a fait une campagne à l'envers en leur disant ne nous croyez pas sur parole, venez voir par vous-même, ça s'appelait Venez Vérifier. Et les gens ont vraiment été passionnés par cette campagne, ça a fait 15% de croissance, et ça a donné envie à l'entreprise de continuer sur ce chemin.
Dans cette voie.
Voilà, absolument.
Alors, David, on a beau avoir faim ce soir, ça va quand même bien se passer. Normalement, plus on est à 2 mètres d'écart. Mais quand on s'est connus, parce que ça fait partie des belles rencontres de ces années, vous travaillez sur un projet où finalement, qui prouve une chose, c'est que quand on veut commencer un projet, il faut aussi bouger toute la chaîne. Et notamment, c'était cette volonté de faire du porc avec une filière bio. Absolument. Donc ça veut dire qu'il faut travailler l'amont, le producteur et le distributeur. Comment on arrive à mettre cette chaîne en adéquation en une seule fois, autant que possible?
C'est vrai que c'est un point hyper important, parce que avec la meilleure volonté du monde, on est chacun un maillon d'une chaîne qui est beaucoup plus large. Et pour faire des changements à l'échelle, il faut impliquer tous les maillons de la chaîne. Si Fleury Michon décide de faire du porc bio, s'il n'y a aucun éleveur pour vendre les cochons, l'intention sera... Il n'y aura jamais de résultat. Donc il faut être capable de mobiliser l'ensemble des maillons. Et là, effectivement, il faut se réinterroger ensemble sur l'objectif qu'on poursuit. Est-ce qu'on veut réussir à nourrir mieux? Et chacun prend sa part à ce moment-là.
Parce que je me souviens à l'époque, vous me parliez du fait qu'en France, on trouvait quoi? L'équivalent d'un jour de la production ou de la vente de Fleury Michon en France, qu'il fallait chercher tout le reste ailleurs?
Il y avait effectivement... Le marché du bio en France, c'est 3 à 4% du marché global. Le marché du porc, c'était 0,1% à l'époque. Et donc, il y avait un déficit important. Ceux qui avaient compris le marché, c'était les Danois. Et 98% des approvisionnements de Fleury Michon et des autres acteurs, c'était au Danemark. Ils avaient développé des filières, justement, avec tous les maillons, en impliquant l'amont, en impliquant les distributeurs. Et le gouvernement avait travaillé sur un projet. On a essayé de faire exactement la même chose en France. Ça a pris du temps, mais ça a marché.
Petite question sur l'actualité très récente. On l'a vu pour une usine de voitures dans le nord de la France. Quand la frontière avec la Grande-Bretagne a été fermée, les stocks étaient déjà vides dans l'usine française. Est-ce que ça a pu arriver aussi, par exemple, la fermeture des frontières qui impacte la production française dans l'agroalimentaire?
On l'a vu avec la crise du Covid. On s'est rendu compte finalement qu'on était assez dépendant. La nourriture, effectivement, on en a besoin tous les jours, entre deux et trois fois par jour en fonction de l'appétit des gens. Donc un maillon de la chaîne se tend, peut très rapidement basculer. Alors la chaîne alimentaire dans sa globalité a été à la hauteur pendant le Covid. Mais effectivement, c'est un équilibre qui est très fragile. Et aujourd'hui, notamment avec les tensions qu'il y a eu sur le milieu agricole, il y a un certain nombre de transmissions d'exploitation qui ne vont pas pouvoir se faire parce que les enfants qui ont vu leurs parents tuer sang et eau sur ces sujets-là n'ont pas envie de reprendre les exploitations. Et si on laisse ça se faire, à horizon 10 ans, il y aura un énorme déficit. On sera obligé d'importer de d'autres pays européens,
voire encore plus large.
Et là, il y a une dépendance qui s'installe. On a parlé de l'or vert pour l'alimentation. On est vraiment dans ce sujet.
Ce qui veut dire que ça nous ramène toujours au sujet du prix, qui est un sujet qu'on abordait d'ailleurs il y a encore une semaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut que le producteur puisse effectivement nous faire ces produits qui vont maintenir son existence, il faut aussi qu'il puisse les vendre à un prix qui soit raisonnable, qui lui assure une marge. Et finalement, c'est aussi une des problématiques, parce que si on regarde ce qui se passait chez vous, d'un côté, il y avait le producteur qui dit « Moi, je veux bien faire du bio, mais ça coûte cher, il faut que j'investisse, je n'ai pas les moyens. » Puis de l'autre côté, ce distributeur, dont certains disent « Oui, j'y vais », d'autres, officiellement devant les caméras, je dis oui, mais en réalité, j'y vais pas. Donc, ils ont des formes de résistance différentes, mais peut-être plus justifiées chez le producteur, finalement.
Oui, le producteur, il voit directement à la vente si, effectivement, il s'en sort ou pas, s'il couvre ses frais de production. Et c'est quand même un des secteurs où il y a eu le plus de ventes à perte dans l'histoire. Donc, ça, c'est pas acceptable quand
c'est clair. C'est non seulement inacceptable, mais en plus, ce n'est pas tenable. Et d'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui pour nous expliquer ce qui est tenable et ce qu'on peut faire pour changer notamment l'alimentation, l'agriculture ou l'agroalimentaire. J'aimerais qu'on accueille notre premier invité. Guillaume Fourdinier, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et meilleurs voeux à vous, surtout vous êtes le fondateur d'Agricool. C'est quoi Agricool, dites-moi?
Agricool, c'est une start-up qu'on a créée en 2015 et qui a pour but d'accélérer l'alimentation locale. Donc là, on est pile dans ce que disait David, l'objectif c'est plus d'autonomie alimentaire. Et donc pour créer du local dans des villes, ce qu'on fait c'est qu'on transforme des containers et on recrée un paradis pour les fruits et légumes à l'intérieur. L'objectif, c'est de produire des herbes aromatiques, des salades, des fraises qui puissent être directement livrées dans les supermarchés autour, ultra fraîches, en ville.
Circuit court, du coup, le plus court possible.
Super court. Là, on a une ferme à La Courneuve, on a 11 containers et on livre directement à Paris, donc environ 50 points de vente aujourd'hui.
Denis ?
Donc pour nos auditeurs, parce que c'est quand même très visuel cette histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va à La Courneuve vous voir, on tombe sur des containers et dans ces containers, on cultive des fraises. Alors David m'expliquait que c'était quand même très technologique en même temps, parce que ça paraît simple comme ça, mais en fait c'est très complexe.
Tout à fait, en fait, pour recréer ce paradis pour les fruits et légumes à l'intérieur du container, forcément c'est complexe, il faut recréer toutes les conditions, et puis il faut produire beaucoup plus avec beaucoup moins, parce qu'on a beaucoup moins de surface, évidemment, on n'a pas les hectares et les hectares qu'on peut avoir à la campagne, donc on produit 120 fois plus au mètre carré, en utilisant 90% moins d'eau, 90% moins d'engrais, pas de pesticides, que des énergies renouvelables, donc on a fait 5 ans de R&D pour ça, et là, vraiment, on pense que c'est bien et qu'on peut commencer à multiplier les points de vente, ce qu'on fait en ce moment.
Donc du coup, c'est la quadrature du cercle quand même que vous avez réussi à atteindre, parce que vous multipliez la productivité tout en vous débarrassant de tout ce qui est chimique ou artificiel qui permettait d'augmenter depuis 50 ans la productivité.
Bah oui, en fait, aujourd'hui, les gros enjeux, ce que disait David, c'est qu'il faut être capable de produire beaucoup plus avec beaucoup moins. C'est cette frugalité qui est vraiment importante. Et voilà, l'homme a toujours été capable d'inventer ce qui faisait sa survie pour la suite. C'est un peu l'optimisme qu'on peut avoir. Et évidemment, il n'y a pas que cette solution, mais l'alimentation locale en ville, elle est un vrai enjeu.
Un vrai, véritable enjeu, vous avez raison, David Garbeau. Ça vous...
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je me lève le matin, de voir des gens comme ça, passionnés, qui se démènent pour trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai quitté Fleury-Michon en me disant, il faut que je fasse 15 Fleury-Michon en même temps. Et bah, je suis ravi d'accompagner Guillaume sur ses projets.
15 petits Fleury-Michon.
C'est fantastique.
Des start-up, effectivement. C'est un secteur économique. On a beaucoup parlé de biotech, tiens, par exemple. Notamment pendant la dernière crise. Il y a des fintech aussi, donc les entreprises technologiques pour la finance. Agritech aussi, c'est un secteur qui explose en France.
Oui, bien sûr. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, comme il y a eu un vrai problème de confiance qui s'est posé sur l'alimentaire, ça a créé des opportunités pour de la différenciation, des gens qui expliquaient résolument leurs différences. Quand il n'y a pas de sujet, l'achat malin, c'est d'acheter le moins cher possible. Logique. À partir du moment où on sait qu'il y a des problèmes, des différences, ben ça laisse des opportunités pour les entrepreneurs pour proposer des solutions. Et il y a un nombre de propositions de valeur qui sont multipliées dans les 10 dernières années qui sont importantes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sujet a commencé par l'alimentation, parce qu'on se sent concerné, c'est ce qu'on met à l'intérieur de son corps.
Évidemment.
Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on voit la même chose dans la cosmétique, ce qu'on se met sur la peau, dans la mode. Mmh. Et ce principe de défiance et d'exigence, du coup, vis-à-vis des consommateurs, il est en train de s'étendre à l'ensemble de la consommation. Donc c'est intéressant de s'inspirer de ce qui se fait dans l'alimentaire, parce que c'est une industrie qui a été un peu en avance de phase.
Tout à fait.
Et maintenant, effectivement, il y a tous les enjeux de la consommation
derrière. Et c'est une des premières, probablement, à se réinventer. Absolument. De force, parce que c'est vital pour la confiance de ses clients.
Un dernier petit mot, parce que vous faites des fraises, mais vous faites quoi d'autre alors? Parce que vous ne faites pas que sucrer les fraises, que d'ailleurs vous ne sucrez pas, parce que c'est pas bon pour la santé.
Ouais. Et puis qu'elles sont déjà sucrées. Non, on fait des herbes aromatiques, du basilic, de la coriandre, du persil, et puis on fait des mix de jeunes pousses de salade aussi, parce que c'est consommé tous les jours et ça a un très fort impact dans le quotidien des gens.
C'est fabuleux. Comment on fait pour se procurer vos produits, si je puis dire, Guillaume Fourdinier? Comment on vous trouve? Et dans quelle ville on peut vous trouver facilement, d'ailleurs? C'est le plus important.
Aujourd'hui, surtout à Paris, et donc chez Monoprix, chez Franprix. Aujourd'hui, 50 points de vente, à peu près 200 à la fin de l'année.
C'est énorme.
Voilà,
c'est
énorme. On se bat pour rendre ça disponible.
Et vous allez arriver dans quelle ville? Vous avez un plan de croissance, j'imagine?
Bien sûr. Bah après, l'idée, c'est les plus grandes villes françaises. Ouais. Plus la ville est grande, plus il y a de besoins, forcément. Après, sinon, on trouve autrement les produits. Hein. Forcément, si on a des produits qui sont en plein champ à côté de chez soi, on n'a pas besoin d'agricole, ça c'est clair. Et donc plus la ville est grande, plus c'est important. Donc dans les plus grandes villes françaises et puis ensuite européennes.
Écoutez, on vous souhaite une belle croissance. En tout cas, Guillaume Fourdinier, bravo à vous, fondateur d'Agricole, justement. Tiens, si vous voulez vous habiter en ville et que vous voulez manger, pourquoi pas, des fraises, des salades, avoir des herbes aromatiques qui sont produites dans des containers juste à côté d'une grande ville où, pour le coup, il n'y a pas de champ et il n'y en a plus depuis très longtemps, eh bien, vous savez où vous trouvez. Merci à vous, en tout cas, Guillaume Fourdinier. Je vous propose qu'on continue justement notre exploration, notre voyage dans l'agroalimentaire de demain, celui qui est vert presque, on peut le dire comme ça, en tout cas, qui est durable. On accueille notre deuxième invité, Sébastien Loctin. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue sur Sud Radio. Bonne année à vous aussi. Vous êtes le fondateur de Biofutur. Vous êtes un ancien de Le Sueur dont on parlait à l'instant. Biofutur, c'est quoi?
Alors Biofutur, c'est une société que j'ai créée il y a 8 ans maintenant, après, comme vous le dites, une carrière dans l'agro-industrie, et puis avec la volonté de changer un petit peu la norme qui est établie depuis une cinquantaine d'années, pour permettre aux consommateurs d'arrêter de se poser toutes ces questions qu'on a aujourd'hui. C'est très compliqué de faire le bon choix pour sa santé ou pour la planète quand il s'agit de manger. Mmh. Et donc j'ai voulu essayer de redonner un petit peu du sens à ce qu'on met dans nos assiettes en arrêtant d'opposer le bio, la santé, l'origine agricole des produits, évidemment, et puis la gourmandise.
Ouais. Alors, moi, le premier truc qui m'a interrogé quand on a préparé l'émission avec David, c'est, je veux que vous nous parliez absolument de ce ketchup qui, paraît-il, est fantastique et dans lequel il n'y a pas de sucre ajouté. C'est quoi ce ketchup? Parce que je pense que ça peut révolutionner le système de la santé américain, pratiquement.
Oui, alors il est incroyable, en fait. On l'appelle l'incroyable ketchup.
C'est son nom, c'est son nom.
Ah, c'est l'incroyable ketchup, c'est son nom. Ouais.
Exactement. En fait, on a essayé de prendre le truc à l'envers. Le ketchup, c'est un produit un peu symptomatique de la junk food américaine, et notamment. Et c'est vrai que c'est un produit qui est sympa à retravailler parce que tous les consommateurs, tous les parents en ont dans leur placard. Et c'est toujours un grand dilemme quand il s'agit de faire manger des légumes aux enfants. On passe par la case ketchup. Et on sait que c'est un produit qui est globalement délétère.
Ouais.
Alors, ce qu'on a souhaité faire, c'est de le revisiter en se disant où est-ce qu'on trouve du sucre, finalement, naturellement. On en trouve dans un certain nombre de légumes. Alors, les betteraves, les carottes, par exemple, l'oignon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a revisité la recette du ketchup en faisant un ketchup de fruits et légumes, donc base tomate, évidemment. Mais on y a ajouté 40% de betteraves, de carottes et d'oignons, de façon à apporter un sucrant complètement naturel. Alors après, on va plus loin, puisqu'on travaille qu'en agriculture française. Donc l'idée, c'est de soutenir à travers ce ketchup Cocorico une agriculture bio et locale. Nous, on est à Aix-en-Provence. Et qui soit évidemment extrêmement simple, puisqu'au final, on fait manger une purée de fruits et légumes à ses enfants.
Ouais. C'est exactement ça. Parlez-moi du goût. Tiens, essayez de me décrire le goût, puisqu'on est à la radio. Donc, on ne sent pas, on ne voit pas. Donc, essayez de me faire imaginer le goût de l'incroyable ketchup.
Alors, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand j'étais enfant, j'ai redécouvert le goût de la vraie crème glacée à la vanille pâtissière. Mmh. Et c'était très loin de ce que des glaces vanille blanches qu'on peut avoir dans l'industrie. Avec ce ketchup, c'est un peu pareil. Le ketchup, à l'origine, c'est une soupe, une sauce de poisson qui est revenue d'Asie, dans laquelle on a rajouté de la tomate parce que le goût n'était pas bon. C'est comme ça qu'est né le ketchup, ça s'appelle le ketchup. Et donc, nous, on a été un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on essaye de reconnecter les gens au vrai goût des produits. Donc, évidemment, un ketchup, il faut qu'il y ait un côté tomaté, donc il y a quelque chose d'assez gourmand. Il faut qu'il y ait évidemment un côté sucré, sinon on n'est plus dans le condiment. Mmh. Mais il faut également qu'on retrouve cette espèce de petite acidité qui va twister un petit peu le plat. Et en fin de bouche, ces épices un peu caractéristiques qui apportent un côté condimentaire et chaleureux du produit. Donc là, on est dans un truc ultra gourmet, où les gens qui le découvrent généralement nous disent on redécouvre le vrai goût des légumes, des épices.
Il n'y a plus qu'à essayer de faire ce tartare, le steak tartare avec votre incroyable ketchup. Ça doit changer encore plus, Denis.
Ah oui, non, mais là, je suis le premier à acheteur dès demain matin, 7h, en rentrant à Nice, je file à Aix-en-Provence, quitte à y aller à pied, avant le couvre-feu. Mais vous avez commencé avec les huiles, en fait. On n'échappe pas à son destin. Et vous avez complètement revisité les huiles aussi, alors.
Ouais, alors nous, la philosophie, c'est ça. On a commencé par les huiles, parce qu'on m'a toujours dit, quand j'ai démarré, on m'a dit, commence par un marché que tu connais bien. Donc, j'ai commencé par celui-ci. On a une ambition, c'est de revisiter, en fait, les produits qu'on a dans notre placard. Moi, je suis papa. Tous les mois, j'achète des produits, j'ai un 80-20, il y a des huiles, il y a des assaisonnements, il y a des condiments, il peut y avoir des céréales. Et ce qui m'intéresse, c'est de revisiter ça pour en proposer des versions vraiment clean. Et on a démarré par les huiles en essayant de régler un problème qui est finalement quelle huile choisir pour sa santé.
Ouais.
Et le meilleur moyen, finalement, c'est de parler des gens. Donc, on est parti du besoin nutritionnel propre, spécifique à chaque population. Mmh. Un bébé n'aura pas les mêmes besoins quantitatifs et qualitatifs qu'un adulte, qu'une personne âgée ou qu'une femme enceinte. Donc, nous, on fait des mélanges franco-français optimisés nutritionnellement avec 5 à 6 huiles, mais qui sont adaptées à chacune de ces populations. Donc, on a 5 huiles, une huile pour les femmes enceintes, une pour les bébés, une pour les enfants, une pour les adultes et une à partir de 50 ans.
Et comment vous les différenciez dans la conception, ces huiles? Qu'est-ce que vous mettez, par exemple, dans l'huile pour l'enfant que vous ne mettriez pas dans l'huile pour la femme enceinte?
Alors, dans l'huile pour, si on prend l'huile pour bébé, par exemple, contrairement aux idées reçues, un bébé, il a besoin de beaucoup de matières grasses. D'ailleurs, le lait maternel lui-même est très gras.
Bien sûr.
Donc, en fait, on essaie de reproduire un peu les acides gras essentiels qu'on trouve dans le lait pour que l'enfant le retrouve dans sa purée. Donc, on va associer des huiles en proportion très spécifique, donc du colza, du lin, du tournesol, et puis une huile marine, une huile d'algue qui va apporter le DHA, qui est un nutriment qu'on trouve dans le lait maternel et qui est constitutif du cerveau. Donc pour l'huile bébé, on est sur quelque chose d'assez neutre en goût pour pas perturber les vrais goûts. A contrario, dans l'huile pour maman, on va être sur quelque chose d'un peu plus gourmand parce qu'on est sur une population adulte qui va rechercher un côté fruité de l'huile d'olive. Donc, on va être sur une base huile d'olive. Mmh. On va y apporter d'autres huiles complémentaires toujours pour apporter l'oméga-3, le DHA dont on parlait.
Tout ce qu'il
faut. Et puis, on va y apporter une huile spécifique qui est la bourrache, qui est une huile qui a des vertus hydratantes sur le derme. Et on sait que le corps des femmes enceintes est souvent mis à rude épreuve.
Oui, tout à fait. Et ça vient d'où, la bourrache, d'ailleurs?
Alors, la bourrache, on en trouve en Europe du Nord. On n'en trouve malheureusement pas en France. On en trouve en Europe du Nord. Et en non-bio, c'est majoritairement une fleur qui vient de Chine.
D'accord, une fleur de Chine, effectivement. David Garbou, j'imagine aussi que cela vous convient, tout à fait, puisque c'est le genre d'initiative que vous encouragez.
Mais c'est typiquement pour ça que je me suis lancé dans Transformation Positive. C'est hyper génial d'entendre Sébastien, là, à l'instant. Ça donne de l'énergie. On se dit qu'effectivement, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, en vérité. c'est une forme d'évidence qui pose là. C'est plus difficile à faire. Alors, faut pas, il l'a très bien raconté, mais il y a beaucoup de recherche et développement.
Évidemment.
difficile à faire. Et c'est des mises au point extrêmement fines. C'est, on l'a dit tout à l'heure, un prix plus élevé qu'un ketchup standard. Donc il faut expliquer aussi pourquoi il y a une différence de prix.
Oui. Ce qu'on trouvera de plus dans ce ketchup-là, cet incroyable ketchup,
exactement,
que ce qu'on aurait trouvé dans celui qui est moins cher.
Ça porte le même nom, mais c'est pas du tout le même produit au final. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait cette pédagogie, cette explication. Parce qu'il y a eu énormément pendant des années, là, sous prétexte de défense du pouvoir d'achat, une course au prix bas qui a été faite. Et ça détruit énormément de valeur. Et aujourd'hui, en fait, on peut se dire que quand on achète un premier prix, on paye un certain prix, mais on paye trois fois finalement.
Oui.
On paye un problème
pour
de santé future, on paye un problème de génération d'agriculteurs qui ne vont pas se renouveler. Mm-hmm. Donc il y a vraiment ce sujet à prendre de manière globale, et c'est par des initiatives comme ça qu'on montre que c'est possible.
Le low cost coûte cher, en tout cas, à la société, c'est l'enseignement de ce soir. Peut-être une question quand même précise, parce qu'elle est importante, malgré tout, baisser les prix à tout prix, effectivement, ça n'a pas été toujours justement pour produire plus, c'était aussi pour démocratiser l'accès à n'importe quel produit. C'est plus difficile, par exemple, j'imagine pour vous, Sébastien Loctin, eh bien, d'avoir accès à des publics qui sont précaires ou alors qui ont moins de moyens ou de pouvoir d'achat. Comment vous faites ou comment vous comptez faire justement pour que tout le monde puisse avoir accès spontanément à vos produits demain, Sébastien Loctin ?
Alors, bah écoutez, en fait, il y a deux choses. En fait, je pense que si on veut, à court terme, pouvoir manger mieux en essayant de maîtriser son budget, ça passe selon moi par un changement d'habitude alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a un prix de l'effort qu'il faut accepter. Ça va être par exemple cuisiner davantage. Un plat préparé à la maison coûte en moyenne trois fois moins cher qu'un plat acheté tout près dans le commerce. Il faut également accepter de manger un peu moins de viande, mais de faire des choix peut-être plus qualitatifs. Et puis enfin, il faut faire une place plus importante au végétal. Le végétal, aujourd'hui, faire un potage de légumes, ça coûte pas cher, ça nourrit une famille. Les légumineuses, les haricots, les pois chiches, les flageolets, le chou, sont des produits bon marché qu'on peut acheter également du coup en bio. Donc je pense que voilà, il faut un peu revoir l'approche qu'on a et du coup après se faire plaisir avec des produits, ben, voilà, par exemple comme notre incroyable ketchup qui est effectivement plus cher, mais si parallèlement on a mieux maîtrisé son budget et de manière plus saine, ben, le compte y est.
Sachant que quand on a cuisiné soi-même, on est beaucoup plus content eh bien, de le goûter que quand c'est quelque chose qu'on a acheté qui était déjà tout préparé. Denis Jacquet.
Oui, puis c'est un élément de convivialité, je crois que c'est important. À un moment donné, néanmoins, Sébastien ou David, est-ce qu'on peut, un peu comme les produits électroniques, se dire c'est cher au début parce qu'il y a une population plus faible qui l'achète et ça décroît dans le temps où le prix, du fait de la qualité, reste stable? C'est une question un peu pour tous les deux, mais David d'abord peut-être.
Il y a forcément, avec le volume, une courbe de prix qui s'écrase un petit peu. Après, sur des produits comme le bio, par exemple, où on a des rendements qui sont inférieurs aux conventionnels sur certaines cultures, pas toutes, ça reste un écart de prix plus important. Mais là aussi, c'est là où c'est intéressant de parler d'innovation. En se mettant avec des retours d'expérience sur ces cultures-là, on se rend compte que on réussit à rattraper quasiment les rendements du conventionnel, notamment en maraîchage. On arrive aujourd'hui à faire des choses quasiment équivalentes. Et donc là, on a les doubles bénéfices. On a un produit parfaitement sans pesticides et un prix correct.
Et un prix correct, justement. Dernière question assez précise pour vous, Sébastien Loctin. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas encore à produire et que vous rêvez de produire? Peut-être votre prochaine innovation?
C'est une bonne question.
Une
justement,
merdouille.
Je voulais rebondir sur le sujet de l'agriculture française. Il y a deux produits il y en a un qu'on vient de lancer, il y en a un qu'on va lancer, dont on est terriblement fiers. On vient de revisiter la mayonnaise et on a revisité la sauce barbecue.
La sauce
et
barbecue.
Pour ça, on a relancé deux filières agricoles. La filière de graines de moutarde bio dans le Limousin. C'est-à-dire qu'en France, contrairement à ce qu'on croit, la moutarde n'est pas française. La graine de moutarde vient du Canada ou de Chine. Et donc, on a la première mayonnaise avec une graine de moutarde filière française en bio. Et sur notre sauce barbecue, on a relancé une filière de piment doux fumé de Provence. Donc, on en est très fiers parce qu'en fait, comme le disait David, on crée de la richesse agricole. Ouais. On donne du pouvoir d'achat à des agriculteurs. Et c'est vraiment fantastique. Et je crois que le gros enjeu pour nous, ce qui est très difficile, c'est d'arriver à enclencher cette transition agricole pouvoir satisfaire nos besoins de demain.
Et redonner vie en même temps à des terres agricoles qui avaient besoin d'aide, en tout cas. Merci à vous de nous avoir donné faim, en tout cas, Sébastien Loctin, fondateur de BioFuture, l'incroyable ketchup, l'incroyable mayonnaise, l'incroyable sauce barbecue. Merci à vous, bonne année encore. Merci à notre grand témoin, hein, David Garbou.
Merci David. Merci
et bravo pour ce que vous faites, notamment transformation positive. Comment conseiller les grands groupes agroalimentaires pour qu'ils se dirigent vers quelque chose de plus durable. Denis Jacquet, à mercredi.
À mercredi prochain, ça sera sûrement aussi bien. Parce ce sera qu'on a que des gens bien.
Mais continuez, en tout cas, on va essayer. C'est une bonne résolution pour 2021. Les voix des entrepreneurs reviennent mercredi prochain, de 19h à 19h30. La suite des vraies voix qui font bouger à France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Place à Stéphane Soumier dans un instant sur Sud Radio et sur Bismart.